Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le film qui a changé ma vie. Je m'appelle Junior, que vous soyez confiné ou sous couvre-feu, j'espère que de votre côté tout va pour le mieux. Comme à chaque fois, je suis très heureux de vous accueillir dans ce podcast dont le but est de vous donner envie de voir ou revoir un long métrage à travers une conversation intime que j'ai ici avec mon invité qui nous fait part de la rencontre et du lien fort tissé avec un film qui l'a marqué et qui est devenu, à force de l'avoir visionné, un film synonyme de souvenirs personnels ou bien une vraie source d'inspiration ou de vocation. Avant de vous parler de l'entretien en question, petit message d'usage, si vous aimez cette émission et que vous avez envie de la soutenir et de la faire connaître auprès d'un large public, n'hésitez pas à en parler autour de vous et surtout n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict. Je serai ravi de lire ici même votre message en fin d'émission pour vous remercier directement à travers ce micro, procédé que je vais appliquer tout à l'heure. Aujourd'hui, 17e épisode de votre podcast préféré dans lequel vous allez entendre la suite de la conversation entamée avec Alice, venue nous parler du film Le Prestige. Ce long métrage de Christopher Nolan lui a permis de s'évader et de surmonter le mieux possible son mal-être scolaire. De son déménagement du sud de la France vers une scolarité auvergnate extrêmement pénible à vivre, pour elle, dès la 5e, la faute au harcèlement scolaire qu'elle subissait. Pour recontextualiser, je rappelle qu'Alice était vraiment seule, aucun ami dans le collège avec qui jouer, bosser ou manger à midi, personne pour l'aider ou la soutenir lors des différentes agressions, elle n'en avait parlé à personne, jusqu'à ce qu'en cours de sport, on la fasse volontairement tomber. Alice s'est décidée d'en parler à sa mère, on en était resté à ce début de prise de conscience provoquée par la maman d'Alice, qui a su trouver les mots justes pour expliquer à sa fille de 12 ans que ce n'est pas normal qu'elle subisse des paroles antisémites et raciste de la part d'autres élèves. Dans la suite de notre conversation avec la créatrice et animatrice du podcast Hors-Champ, on a parlé du potentiel point final de ce harcèlement en question, de ce qu'on peut faire dans cette situation, mais aussi de choses plus légères comme la résolution du tour de magie de l'homme transporté, de Christopher Nolan, de Memento, des films trauma crânien, alors cette expression n'est pas de moi, vous comprendrez après, ou encore de confiance en soi. Je vous propose de découvrir la suite de cet échange enregistré avec la jeune ingénieure du son de métier, juste après un extrait du film Le Prestige.
Il est suffisant et prévisible et ennuyeux à mourir. Je veux dire, Milton a eu du succès, si on veut bien l'admettre, et maintenant il a peur et veut même plus prendre le moindre risque. Tout ce qu'il fait, c'est abuser la bonne volonté du public avec ses vieux tours.
Vieux tours adorés du public.
Adoré, tu parles, il faut du nouveau, il ose même pas essayer la foutue balle volante.
La balle volante, c'est du suicide. Il suffirait qu'un des petits malins qui viennent sur scène mette une balle dans le canon.
Très bien, un complice alors.
On peut en utiliser pour chaque tour.
Il n'y aurait plus de siège pour les spectateurs.
D'accord, oublions le pistolet, c'est pas grave, mais l'important c'est qu'un vrai magicien essaie d'inventer quelque chose de nouveau qui oblige les autres magiciens à s'arracher les cheveux, vous voyez.
Oui, pour le leur céder ensuite contre une vraie petite fortune.
Pourquoi pas?
Et je parie que vous avez un tour de ce genre, Monsieur Borden.
Oui, en effet.
Accepteriez-vous de me le vendre?
Non, nul autre ne saurait l'exécuter.
Aucun tour n'est impossible à copier, pas vrai, Monsieur
Fetter?
C'est faux. Si Monsieur Borden a inventé son chef-d'œuvre, ce doit être le seul qu'il soit capable d'exécuter.
Depuis le début de cet enregistrement, tu me racontes comment tu as été écrasé par tout ça. Et malgré l'intervention de ta mère, on prenait pas ta parole au sérieux, on ne l'entendait pas. À partir de quand il y a eu une inversion et à partir de quand tu as enfin pu renverser la vapeur et faire comprendre qu'il y a des brimades, des humiliations et que il faut que ça cesse?
Avant que je puisse quitter le collège pour aller au lycée, ça s'est jamais vraiment terminé, ça s'est jamais vraiment éteint complètement. Il y avait toujours, voilà, on me le rappelait. Mais il y a eu un moment où j'ai eu une preuve, en fait. C'était, il y avait vraiment deux phases, c'est-à-dire que dans les couloirs, à la récré, c'était du verbal, c'était du physique, mais en classe, on voulait pas non plus me laisser tranquille. Donc on trouvait des moyens plus discrets, évidemment, parce que ça serait dommage de se faire choper par la prof, en me glissant des petits mots, en m'écrivant des petites choses, en détruisant un petit peu mes affaires, en me cachant mes affaires, en me les renversant partout, en faisant en sorte que je remarque qu'il y a eu une petite attention à mon égard. Et donc à ce moment-là, j'ai pu montrer le dégât de mes affaires. Je comprends d'un côté, parce que c'est vrai que c'est ma parole contre celle des autres. Ça, je peux le comprendre aujourd'hui parce que, enfin, ils sont responsables d'une centaine d'enfants, des enfants qui n'ont pas forcément les mêmes niveaux, des enfants qui n'ont pas forcément la même vie entre eux. Ils doivent tous apprendre le même programme scolaire avec leurs différences.
Avec la contrainte de temps.
Exactement. Enfin, je veux dire, je peux le comprendre. Mais ils se sont rendus compte à ce moment-là, quand j'ai pu montrer, quand j'ai pu exprimer justement que ce que je disais n'était pas des mensonges, surtout que je n'avais aucun intérêt à mentir, pourquoi j'aurais fait ça ?
Tu avais de bonnes notes, tu étais sérieuse, appliquée, concentrée. Donc si un mal-être commençait à naître, fallait quand même commencer à réagir et se dire « quand même, c'est une fille calme, si elle a des problèmes, on devrait focaliser là-dessus, parce que les profs connaissent aussi les perturbateurs du fond de la classe, qui en branlent pas une, qui parlent fort, etc. »
Personne n'est prêt à être confronté à ça. Si on se met un petit peu à la place des profs, il y a une élève qui est complètement effacée. Elle a des bonnes notes, mais on n'en entend pas parler. Elle ne nous embête pas. Elle nous laisse faire le cours.
Tu participes
Non, je ne participais pas, justement. Tu vois, je rendais mes devoirs à temps, mais j'étais vraiment effacée, que ce soit pour les élèves ou pour les profs. Et là, eh ben, cette élève-là, elle se décide, et la première fois qu'elle vient vraiment nous parler, exprimer quelque chose, c'est pour nous dire quelque chose d'aussi grave. Moi, je peux comprendre qu'on essaye de s'en débarrasser de ça. On essaie de le camoufler parce que, justement, comment on va gérer ça ? Après ça, il y a eu quand même des petites interventions des profs par rapport au racisme, par rapport à la tolérance. Ça ne m'était pas directement concerné, on ne citait pas mon nom, mais il y avait eu des petites conférences, je veux dire des petites interventions sur le racisme et sur l'antisémitisme. Et bien sûr sur le racisme qui ne touche pas que les juifs, hein. On a vraiment... Voilà, on a tout englobé. Mais en même temps, on était très jeunes. Alors, ça ne s'est jamais arrêté parce que comment on comprend ça en fait ? Tu vois ?
Non, je vois très bien ce que tu veux dire. Quand il y a eu cette preuve finalement que tu as pu présenter... Mmh. Tu me dis que c'est remonté jusqu'au prof d'histoire, mais c'est tout. Ça n'est pas allé vers le professeur principal, le principal adjoint, le principal.
Ça n'a pas été l'élément qui a tout stoppé, mais ça a permis en fait de se rendre compte qu'il y avait qu'à cet âge-là, il y avait du racisme et de l'antisémitisme. Et que donc à cet âge-là, il y avait déjà de la violence. Et la violence dans un collège, c'est forcément quelque chose à éviter. Quelle que soit la forme de violence, et là, on était face à une grande forme de violence. Et donc, à ce moment-là, des parents ont été convoqués, des gens ont été convoqués, on a appelé les élèves, on les a regroupés, on les a mis face à cette violence-là, sans jamais me citer ou citer mon problème. Ce n'était pas du tout le but.
Le but, c'était de rechercher d'où ça vient.
Voilà, et de permettre de comprendre d'où ça venait, et de permettre aussi aux élèves de 12-13 ans de comprendre à quel point c'était grave. Pas forcément de les juger, pas forcément de les pointer du doigt et de leur dire c'est de ta faute ou c'est de ta faute, mais juste de leur permettre de comprendre que ça n'a aucunement sa place ici, ça n'a sa place nulle part. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est inné dans les cerveaux, c'est pas quelque chose qui est forcément acquis. Il faut l'expliquer et il faut le faire comprendre. Il faut, par le biais de l'école et l'éducation, faire comprendre que non, ce n'est pas autorisé, que c'est même illégal. Ce n'est pas seulement non autorisé, c'est interdit.
Et on y revient, hein. L'éducation est la base de tout, on y revient. Le point final du coup, c'est il s'est présenté comment, de quelle façon on a pu enfin calmer les ardeurs et tout ce racisme latent qu'il y avait dans ton collège. Est-ce que ça s'est vraiment enfin tué, ces phrases assassines ?
Ça a diminué parce que les gens se lassent, hein. Mais ça s'est vraiment stoppé quand je suis allée au lycée en fait. Quand il y a eu ces deux mois de vacances d'été et que j'ai pu aller dans une nouvelle classe et rencontrer des nouvelles personnes, il n'y a pas eu de point final. Voilà.
C'est bon à savoir. Après, j'ai une dernière question là-dessus, mais on y reviendra plus tard.
Avez-vous pensé à un nom pour ce tour ?
On ne va pas jouer les timides. Borden l'appelle l'homme transporté. Ce sera le nouvel homme transporté. Mesdames et messieurs, beaucoup de ce que vous avez vu ce soir peut porter le nom d'illusion ou de fantaisie divertissante. Hélas, je ne peux prétendre que le prochain tour soit une illusion. Regardez bien.
Pendant toute ta période de collégienne, le visionnage du prestige continuait ?
Bah en fait, il y a eu d'autres films et en parallèle de ça, En fait, en parallèle de tout ça, comme je te le disais, j'avais vraiment besoin de trouver quelque chose qui me permettait de m'évader. J'avais trouvé le prestige, j'avais eu la chance de tomber sur un bon film en allant à cette séance de projection-là. Et évidemment, je commence à m'intéresser au cinéma, je commence à comprendre un petit peu comment les effets spéciaux du prestige ont été faits, de manière mécanique, je veux dire, de manière du tournage.
Tu parles vraiment au sens large, parce que j'avais une question qui est peut-être complètement conne, mais est-ce qu'on reste dans le cadre d'un film de magicien, parce qu'il y en a eu quelques-uns,
ouais.
Ou est-ce que vraiment on élargit le cadre et on va juste creuser le cinéma?
Non, pour le coup, on élargit le cadre. Parce que voilà, je m'intéresse à ce film en particulier, c'est-à-dire que je vais voir un petit peu comment a été fait le tournage, comment les effets spéciaux ont été mis en place. Je m'intéresse à d'autres films de Christopher Nolan, je m'intéresse à Christopher Nolan aussi en tant que réalisateur. Je découvre ses autres films qui m'ont moins marqué. Enfin, je veux dire qui m'ont...
Lesquels tu as découvert, pour donner une illustration aux auditrices, aux auditeurs?
Le deuxième que j'ai découvert était Memento, pour le coup, qui était vraiment pas un film pour moi, pour mon âge, que j'aurais aimé pouvoir découvrir beaucoup plus tard. Pas parce que j'ai adoré le film, mais parce que pour le coup, j'aurais aimé ne pas avoir peur de ce film. En quelque
sorte. C'est exigeant. C'est une narration inversée, c'est très exigeant quand même à regarder.
Et c'est, au-delà de l'histoire, ça reste violent. Si on regarde un petit peu les films qui étaient interdits au moins de 10 ans avec cette petite pastille qu'on connaît tous, on n'avait pas, selon les politiques du cinéma, le droit de voir beaucoup de films en soi. Mais je sais que c'était un film extrêmement violent pour mon âge. Et c'est pour ça qu'il m'a moins marqué, mais en même temps, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au travail de Christopher Nolan dans le sens où il arrivait toujours à nous faire visionner le film une deuxième fois et à nous construire un scénario complètement décalé, barré, complètement fou, en fait. Il devait retranscrire sur papier une histoire complètement folle et pouvoir la retranscrire à l'image ensuite, sachant qu'il n'utilisait pratiquement pas d'effets spéciaux numériques, que tout est fait de manière analogique, de manière mécanique, avec des constructions, des explosions faites maison, etc.
Limite artisanale, ouais.
C'est pour ça que ça m'a intéressé plus dans ce côté...
L'envers du décor.
Voilà, c'est ça. Vraiment ce côté, l'envers du décor. Et aussi comment on construit un personnage. Comment on... C'est-à-dire que...
Donc le travail d'écriture.
Ouais, c'est vraiment ça. Alors, je sais pas si je peux spoiler.
Oh si, tu peux y aller. Hein.
Ouais.
Oui, si, c'est pas... Alerte spoiler, voilà, si vous voulez vraiment voir le film et ne pas connaître une intrigue déterminante, un plot twist, comme on dit aujourd'hui pour se la péter, n'écoutez plus et sautez quelques secondes plus tard.
Donc mon spoil, c'est qu'à la fin du Prestige, on découvre qu'en fait, Alfred Borden a un frère jumeau.
C'est troublant d'ailleurs la ressemblance. Parfois je me disais, mais c'est pas Christian Bale encore sous le masque de Fallon.
Ce qui m'a intéressé aussi dans le Prestige, alors pas la première fois que je l'ai vu, mais la deuxième fois quand je me suis commencé à intéresser à toute cette mécanique derrière la création d'un film, en fait, comment créer deux personnages qui doivent en fait en créer qu'un, mais qui après se séparent en deux personnages bien distincts. Et ça m'a intrigué aussi, beaucoup.
Tout ça était le fruit de recherches également, via peut-être le DVD, via Internet ou autre.
Ouais, via Internet. Franchement, c'était pour le coup, en termes d'évasion, ça m'a bien aidé. Parce que j'ai passé vraiment des heures à faire des recherches. Des fois, ça n'aboutissait pas ces recherches parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'informations sur chacun des films qu'on regardait. Et des fois, c'était des films faits complètement de façon classique. On va dire, rien n'était vraiment étonnant, rien n'était vraiment fait de manière étonnante. Et ça m'a vraiment intéressée, j'étais impatiente de choisir le prochain film que j'allais voir et que j'allais le réfléchir, ce film, avant d'aller le voir.
Et ce cheminement-là, c'est à partir de 14 ans, dès quand tu commences à sortir du collège?
Ouais, je me rends compte maintenant de l'importance du film, du cinéma. Et là, je rencontre le cinéma. Je vais au-delà d'un film... Je vais au-delà d'un moment famille et d'un moment d'évasion audiovisuelle. Je rencontre vraiment le cinéma dans l'envers du décor. Et cette étape-là, en fait, je commençais donc à avoir une culture audiovisuelle qui était solide. Je me renseignais beaucoup. Au CDI, quand je pouvais y aller au CDI du collège ou du lycée, c'était des livres sur le cinéma que je regardais. Des films tout pourris, mais bon, c'est là que j'ai appris... C'est là que j'ai appris toute la filmographie de Chaplin, tu vois. que je ne connaissais absolument pas.
L'important était l'accès à la culture, finalement, dans ce que tu décris. Là où aujourd'hui elle est considérée comme non essentielle, on se rend compte à travers toutes les émissions qu'on peut faire, tous les témoignages que je peux recueillir comme le tien, à quel point c'est important, finalement, ça t'a aidé à tenir et à traverser une période qui était extrêmement difficile à encaisser, quand on n'a pas les épaules.
Ben, ça, c'est certain. Après, j'ai acheté le programme télé pour repérer le prochain film que j'allais voir, me renseigner. C'est vrai qu'à l'époque, plus que maintenant, il y avait beaucoup de films à la télé. Par rapport à aujourd'hui, il y en avait beaucoup plus. Donc c'est vrai que c'était plus facile de découvrir des films si on n'avait pas forcément la chance d'aller au cinéma.
Ils ont applaudi quand vous y avez assisté ?
L'astuce était trop parfaite, beaucoup trop simple. Les gens n'ont pas réalisé, ils n'ont pas eu le temps.
C'est un mauvais magicien.
Non, c'est un merveilleux magicien. Mais un mauvais comédien, il ne sait comment se mettre en valeur, comment vendre son tour.
Mais comment fait-il ?
Il utilise un double.
Non, trop simple, ce tour est des plus complexes.
Si vous dites ça, c'est parce que vous ignorez sa méthode. Il se sert d'un double, c'est le seul moyen.
Je suis déjà allé voir ce tour 3 fois, monsieur Cutter. Le prestige, c'est le même homme.
Vous faites erreur.
C'est le même homme qui ouvre la seconde porte, j'en suis sûr.
C'est le même homme. Des gants rembourrés cachent sa blessure, mais si on regarde de près, on peut s'en rendre compte.
Tu vas au lycée. Derrière, tu as fait quoi comme étude avant qu'on en arrive à parler de ton métier rapidement ?
J'ai fait déjà une seconde générale, donc j'étais vraiment dans un tout nouveau lycée. J'avais choisi de faire la section anglais-euro, ce qui fait que je me suis retrouvée avec des gens complètement inconnus. Ma période collège était complètement effacée parce que j'avais que des nouvelles têtes en face de moi. Et d'ailleurs, l'anglais, j'ai choisi de faire anglais-euro parce que je voulais voir des films en VO, quoi. À partir de ce moment-là, toutes mes réflexions, tous mes choix de carrière, d'études ont été faits grâce au cinéma. Je voulais voir des films en VO, donc je devais bien parler anglais. Donc je me suis inscrite à la section européenne de mon lycée.
C'est très bizarre, mine de rien, ce que tu as subi au collège t'a dirigé vers ce qui allait devenir plus tard une vraie passion. Et quelque part, ça t'a forgé. Ça t'a endurci. Est-ce qu'avec le recul, tu le vois, ça ?
Bah oui, maintenant je le vois, parce que j'avais vraiment une vraie connaissance audiovisuelle. J'avais confiance en ça. J'étais à l'aise, je pouvais parler d'un film, et même si tu n'étais pas forcément d'accord avec moi, je pouvais exprimer mon avis sur ce film et te sortir des faits, des anecdotes sur le film. Pour la première fois, j'ai eu confiance en moi de m'exprimer sur ce sujet-là.
C'est venu combler ce manque de confiance en toi qui était finalement présent tout au long de ta scolarité au collège.
C'est tellement facile d'avoir une discussion autour d'un film, parce que même sans être cinéphile, tout le monde regarde des films. À la télé, le soir, maintenant on a toutes ces plateformes-là, je veux dire, on peut très bien prendre un abonnement de Netflix sans être cinéphile. Ça m'a permis de parler à des gens, de me dire, tiens, j'ai vu aussi le film dont tu parles maintenant. Je veux bien en parler avec toi, moi je sais des choses, je peux t'apprendre des choses. Et c'est la première fois que j'ai eu confiance en moi. Il y a eu une chose aussi, par rapport à tout le racisme, l'antisémitisme et tout, c'est que j'ai aussi regardé des films sur cette période-là, sur le génocide et sur la Seconde Guerre mondiale. Ça m'a aussi permis d'apprendre des choses.
Ça passe par des classiques, Shoah de Lanzmann, je suppose, ce genre de choses.
Oui, c'est ça. Et, Nuit et brouillard.
Il est très dur. Il est souvent d'ailleurs diffusé, je l'ai vu, je vais pas dire de bêtises, au collège, je pense, en 3e. Mm. Et il est souvent diffusé aussi par les professeurs.
Ouais, brouillard. C'est un film qui est très utilisé et pourtant très dur. Hein.
Vraiment très, très dur. C'est pas à mettre devant tous les yeux. Je vais vous donner un exemple concret parce que c'est bien aussi de dire les choses telles qu'elles sont. On a des images brutes de fours crématoires. Donc c'est pas avec des corps encore dedans, donc c'est pas vraiment un film qui est accessible à tous.
Et ça m'a aussi permis, mais ça peut-être qu'on en parlera plus après, mais d'apprendre des choses aussi, d'élargir mes cours d'histoire. C'est-à-dire que c'est assez édulcoré quand même ce qu'on apprend au collège, forcément.
Bien sûr. C'est condensé, faut que ça tienne sur 9 mois,
oui.
3 trimestres.
Et en plus, on est quand même jeune et on ne va pas nous montrer des images violentes, on ne va pas nous montrer des images trop crues, évidemment. On est entre 11 et 14 ans à cette époque-là, c'est trop jeune.
Tu fais le lycée, je reparcours un peu tout ce que tu as dit. Je sais, je parais chelou parce que j'ai les yeux fermés et que je fais des trucs comme ça avec mes mains. Mais je reparcours un peu la frise qui est extrêmement riche. Oui, il y a cet enrichissement culturel, cinématographiquement parlant, c'est top. Ça, je suppose, influé ton choix sur les études supérieures à mener ensuite. Tu t'es dirigé vers quoi ?
Ben, vers une école de cinéma.
Tout semble toujours en Auvergne, hein.
Non, je suis partie de la région et je suis allée à Marseille.
Ah, d'accord.
Retour aux sources. Pour faire un BTS, audiovisuel, métier du son, dans une école qui s'appelle les ateliers de l'image et du son. C'est une toute petite école, il n'y a pas beaucoup d'étudiants, très basée sur le côté pratique du cinéma, du côté technicien du cinéma, justement. Pourquoi le son ? Parce que, en plus de faire de la musique à côté, j'ai toujours aimé les musiques au cinéma. Enfin, je veux dire, c'était... J'ai toujours aimé les associations qu'on peut voir entre musique et image, les associations qu'on peut voir entre les sonorités. Pourquoi choisir cette musique par rapport à telle image ?
Mais ça vient de films précis, ce goût pour le son, la bande-son, ce souci de « je me sers de telle musique pour habiller telle image, tel propos ». Est-ce qu'il y a vraiment des références qui t'ont amené à, spécifiquement à te diriger vers le son ?
Alors, il y a un film que j'avais découvert encore plus jeune que Le Prestige, qui est « Chantons sous la pluie ». Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est comment le cinéma est passé du cinéma muet au cinéma sonore. Et en regardant ce film-là, je me suis dit quand même que, attends, l'arrivée du son au cinéma, ça a quand même changé énormément de choses. Au-delà du fait qu'on rajoute un sens à solliciter chez les spectateurs, on bouleverse énormément de codes.
Mais on va en reparler, à mon avis, dans un futur épisode de tout ça. On comprend mieux maintenant que ça vient de là.
Oui.
Et du coup, aujourd'hui, tu exerces ce métier-là. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Ingénieur du son, de mixeur. Tu fais du mixage son.
Oui,
On dit ingénieur du son, mixeur son ?
Ingénieur du son, c'est le général, et mixeur, ça serait plus ma spécialité, quoi.
Très bien.
J'ai participé aussi à des tournages. J'ai fait aussi beaucoup de radio en tant que technicien son. Il y a aussi quelque chose aussi qui m'a beaucoup inspirée en tant que son à l'image, c'est le travail d'Hans Zimmer avec Christopher Nolan. Cette période-là où je découvre le travail de Christopher Nolan.
Je
découvre aussi d'Hans Zimmer avec son travail sur Inception, son travail sur Interstellar.
Tesla en a fabriqué une pour un autre magicien.
Alors pourquoi vous voulez la même ?
Disons rivalité professionnelle.
Monsieur Tesla fabriquait un tas de machines bizarres pour un tas de gens bizarres. Mais jamais il n'en parlera.
J'apprécie la discrétion. Je ne veux que cette machine.
Finissez votre verre. J'ai quelque chose à vous montrer. Je pense que vous ferez preuve d'une compréhension particulière pour notre travail.
Je croyais qu'il était secret.
Vous êtes magicien. Qui pourrait vous croire ?
Au-delà du premier tour et de cet aquarium dans lequel cette femme ligotée, les bras vers le ciel, est plongée, j'aimerais beaucoup que tu, si tu en as, hein, des scènes clés, on va dire une ou deux max, parce qu'on a déjà explosé les records, de scènes qui t'ont profondément marqué et qui fonctionnent encore sur toi aujourd'hui.
Je pense que c'est vraiment plus les regards de Christian Bale. Surtout au début du film, en fait, où le film est une rétrospective. Donc, on commence le film avec la scène du présent. Il est jugé pour l'assassinat de son ami, son ex-ami et de son rival. Je pense que ce qui m'a marqué vraiment au-delà d'une scène, c'est vraiment les regards qu'il a, quoi. Son jeu d'acteur est formidable. Après, j'ai pu découvrir un petit peu plus son travail et un peu plus ses films, notamment Batman. Son travail d'acteur sur Batman ne m'a pas autant marqué que les regards qu'il a dans Le Prestige. Le changement de regard quand il passe de... Enfin, quand on voit son frère, quand on le voit lui, quand sa femme lui dit « Aujourd'hui, tu m'aimes moins ».
Oui, qu'elle lui demande à chaque fois une espèce de confirmation sur le fait que tu m'aimes, mais pas aujourd'hui.
Oui.
Là, je te sens sincère, mais hier, tu l'étais pas, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de scènes comme ça.
Mais comme si, en fait, elle lui demandait son identité. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu m'aimes, ou est-ce qu'aujourd'hui, tu ne m'aimes pas ? Et je trouvais vraiment, au-delà des scènes, son travail de jeu d'acteur formidable.
Je t'aime plus que tout.
Dis-le encore.
Je t'aime.
Pas aujourd'hui.
Quoi ?
Il arrive que ce soit faux et aujourd'hui tu ne le penses pas. C'est peut-être qu'aujourd'hui tu aimes la magie plus que moi. J'aime être capable de faire la différence parce que les jours où c'est vrai sont plus importants.
Parfait.
Oh. aux parents qui nous écoutent, aux professeurs qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces gens-là? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil qui peut-être, même si tu ne détiens pas la vérité et tu n'es pas spécialiste dans le secteur social, mais qui peut-être serait un élément que tu aurais aimé, une chose que tu aurais aimé entendre à cette époque-là? Comment on peut aider et soutenir quelqu'un qui traverse ce que tu as traversé, savoir le harcèlement scolaire au collège?
L'écoute, déjà. Prendre le temps d'écouter. Parce qu'un enfant qui vient vous dire ces choses-là, c'est pas sorti de nulle part. Parce qu'on n'est pas vraiment des ados, on est vraiment des enfants, quoi. On est en pleine puberté, on se crée une identité, on n'a pas vraiment de personnalité. Notre personnalité, elle dépend de celle des autres par rapport au groupe dans lequel on est, etc. On n'en a pas de personnalité propre à nous. Ça vient bien après cette vraie construction-là. Et donc un enfant qui vient dire à un adulte qui a, lui, une personnalité, qui a, lui, s'est construit un point de vue, une façon de penser, et qui vient lui dire des choses aussi graves que ça, je pense qu'il faut prendre le temps d'écouter. Alors après, vous en faites ce que vous en voulez. Mais juste prendre le temps d'écouter, de s'asseoir et d'écouter, de poser des questions. Si c'est bidon tout ça, on s'en rendra facilement compte. Mais quand on est face à une enfant comme ça, qui commence à vous décrire tous ces problèmes-là, qui commence à vous donner ces mots, hein, harcèlement, racisme, ça ne sort pas de nulle part. Donc juste prendre le temps d'écouter, et si vous vous rendez compte que c'est finalement vrai, il faut arrêter tout ça. En fait, le but, c'est que le harcèlement disparaisse, quelle que soit la forme. Moi, j'ai vécu le racisme, mais d'autres vivent par exemple les attaques sur leur physique, des attaques sur leur famille, des attaques sur leur façon de penser.
C'est vraiment l'âge ingrat, de toute façon tu es trop noir, trop arabe, trop grand, trop petit, trop gros, trop de lunettes, on est toujours trop quelque chose à cet âge-là, et tu as complètement raison.
En fait, on a besoin des adultes à ce moment-là. Parce qu'on pense croire qu'on est indépendant, ça y est, on va sortir avec les copains, on va aller se balader au parc, ouais, je suis indépendant, je sors de la maison tout seul, ouais, vas-y, je rentre à pied tout seul, vas-y, je suis indépendant. Non, non, en fait, on a besoin des adultes à ce moment-là, on a besoin de se sentir entouré et écouté. Moi, à ce moment-là, quand le premier prof ne m'a pas cru, après tout l'effort que j'ai fait pour venir le voir et pour penser les mots, comment je vais dire ça, en fait? Comment je vais le sortir? Il va me prendre pour qui? Et quand en fait en face de moi j'ai quelqu'un qui ne m'écoute même pas et qui en plus ose me dire que je suis en train de lui mentir, on perd confiance en nous forcément. C'est-à-dire que les profs, au-delà du fait qu'ils nous apprennent des choses selon un programme, ils sont aussi là pour être une sorte de support. Surtout au collège, au lycée, c'est plus trop le cas parce qu'on est plus nombreux, parce que le programme est plus compliqué, parce qu'on nous forme aussi à être beaucoup plus indépendants.
Plus autonome, oui.
Plus autonome, on va déjà nous donner plus de devoirs à la maison.
Rien que la prise de notes.
Voilà. Au collège, on a encore une certaine proximité avec les profs. Et donc, on a encore... Ouais, on a toute cette proximité encore. Je pense que c'est vraiment le mot, pour le coup. Et donc, si le fait qu'on se confie à un adulte et que cet adulte-là ne croit pas, elle est où, cette proximité-là? Sur qui on va s'appuyer? On va pas s'appuyer sur nous-mêmes, on n'est pas forgé.
Peut-être qu'il y a des jeunes gens qui nous écoutent aussi. Que j'aime pas être dans l'injonction. C'est un peu comme sur les questions de l'inceste ou du harcèlement sexuel ou dont on parle beaucoup. Je trouve que Flavie Flamand l'expliquait très bien. Faut pas être dans l'injonction non plus. Pas forcer quelqu'un à s'exprimer et à arriver à mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Mais le jour où tu te sens prêt, le jour où tu te sens le courage de le faire, fais-le. Même si ça commence à la sixième et que c'est qu'à partir de la troisième que tu peux le faire, fais-le, si je peux me permettre. Voilà, je ne suis pas dans le fait d'imposer de le faire, mais si vous pouvez, faites-le. Et c'est un sujet qui est très intéressant. J'ai d'ores et déjà prévu pour novembre prochain une autre émission qui sera consacrée au harcèlement scolaire, parce que ça a été, malheureusement ça ne l'est plus, ça a été une cause nationale, et il y aura une émission spéciale que je vous prépare avec une femme qui justement a été bouleversée par un téléfilm et qui depuis intervient dans les collèges pour éviter ça. Et donc on va faire une spéciale aussi dans les mois à venir, en novembre.
Mais ce qui est important aussi de dire, au-delà du fait d'en parler, c'est de se rendre compte que ce que vous vivez, c'est grave et que ça ne se justifiera jamais. Alors, l'erreur est humaine. On est con. Quand on est collégien, nous sommes cons.
On est très cons à cet âge-là.
Mais il y a quand même une limite. On ne peut pas justifier tout parce qu'on est collégien et que parce qu'on a des personnalités qui se construisent, etc. On ne peut pas justifier tout ça par ça. C'est grave ce que vous vivez et c'est important, avant même de pouvoir en parler, que vous vous rendez compte que ce n'est pas votre faute. que justement vous n'avez rien fait de grave.
Ça, c'est ce que tu aurais aimé qu'on te dise.
Ouais, en fait, parce que c'est vraiment le premier sentiment que tu as. Tout le monde vient vers toi, te vise, t'insulte et te dit pourquoi ça serait moi, j'ai fait quelque chose de mal. Tu peux pas penser autrement que ça à cet âge-là. Tu te dis forcément que t'as fait une bêtise, que t'as dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, et donc pour toi c'est de ta faute. Et que... Parce qu'il y a aussi quelque chose, c'est que quand on est collégien, on comprend pas ce que c'est l'injustice.
Bien sûr.
On ne sait pas ce que c'est. C'est vraiment toutes des notions qu'on va apprendre en grandissant. Mais l'injustice même, on la comprend pas. C'est-à-dire que, on me fait du mal, c'est parce que j'ai fait quelque chose. C'est mérité, entre guillemets. Voilà.
En tout cas, on aura bien compris. J'espère que le message est passé. Ça, c'était toute ton histoire entre le prestige et cette question du harcèlement scolaire qui sera bien évidemment réévoquée ici. Je vais essayer de vous donner des liens. Je sais qu'il y a des associations, des choses comme ça. Il faudra que je les donne en fin d'émission. C'est important.
Ouais.
Le prestige est disponible d'ailleurs sur la plateforme Netflix.
Trop peu connu.
Oui, malheureusement. Ouais. Mais même moi, je suis passé complètement à côté alors que j'ai vu tous les autres. Il y a un vrai problème.
Et pourtant, c'est un film... Alors peut-être qu'il n'est pas aussi tordu que les autres. Qu'il n'est peut-être pas aussi trauma crânien. Enfin voilà, moi j'aime bien appeler les films trauma crânien quand vraiment on est sur du Tenet ou du Inception. Voilà, le film, tu sors de la salle, t'as un trauma crânien.
Oui.
Là, on n'est pas vraiment sur ça, mais c'est un super film, quoi. Allez le voir, c'est sûr.
On aura bien compris le rapport si particulier que tu as avec le prestige. On passe à la dernière étape du podcast, c'est nos deux recommandations. Il y a d'autres films qui t'ont marqué, par contre, il faudra être très efficace et essayer de faire court, oui, s'il te plaît. Déjà, une première recommandation, c'est un film que je ne connais absolument pas d'ailleurs.
Donc je vais vous parler de 3000 nuits, qui a été réalisé par Mai Masri. Je ne suis pas sûre de la prononciation, Mai Masri, qui est un film qui est sorti en 2015, mais qui n'est sorti qu'en 2017 en France. C'est un film dramatique palestinien qui est inspiré d'une histoire vraie. Pourquoi ce film m'a marqué ? Parce qu'en fait, c'est ce film qui m'a donné envie de lancer mon podcast sur les films inspirés d'histoires vraies.
Qui s'appelle Hors Champ.
Hors Champ, ouais, exactement. Au-delà de ça, ça m'a surtout donné envie d'élargir l'histoire de ce film. Là, on est vraiment dans l'histoire, pour le coup, plus que dans l'envers du décor, comme pour le prestige. On est dans les années 1980, on est à la veille des événements de Sabra et Shatila. La révolte gronde dans la prison israélienne. Et dans cette prison israélienne, c'est surtout des détenus politiques palestiniennes qui sont emprisonnés. On suit une jeune femme qui s'appelle Layal, qui est une jeune institutrice palestinienne qui est récemment mariée et qui est arrêtée et incarcérée dans une prison israélienne de haute sécurité. Elle est condamnée à 8 ans de prison pour un attentat dans lequel elle n'est pas impliquée. Et donc elle partage la cellule avec des Israéliennes condamnées pour diverses raisons et elle s'habitue progressivement à l'univers carcéral. Et elle découvre en fait, en rentrant en prison, qu'elle est enceinte. Et malgré tout, elle va continuer l'aventure et garder son enfant. Pourquoi ça m'a marqué ? Parce que je n'étais pas du tout au courant de ce qu'étaient les événements Sabra et Shatila. Pour résumer un petit peu ce que c'est, on parle du massacre de Sabra et Shatila, qui a été perpétré en septembre 82 envers des Palestiniens du quartier de Sabra, justement, et du camp de réfugiés palestiniens de Shatila, qui est à Beyrouth, au Liban. Et tout ça orchestré par des milices chrétiennes. D'ailleurs, une recommandation, sous la recommandation, il y a le film documentaire d'animation Valse avec Bachir, qui raconte très bien ces événements-là. Et ça m'a vraiment marqué parce que je n'étais pas du tout au courant. Et je me dis, le cinéma m'a encore une fois aidé à découvrir des événements historiques que je ne connaissais pas et qui ont eu une importance très grande dans les pays du Moyen-Orient. C'est pour ça que j'ai voulu lancer mon podcast, même si je n'ai toujours pas parlé de ce film.
Il serait peut-être temps de s'y atteler, justement. Ouais. 3000 nuits, date de 2015 en effet, et il est disponible sur une seule plateforme en France, c'est la VOD d'Orange, si vous voulez vous faire votre propre avis. Il est disponible en achat et en location. Et ta deuxième recommandation, s'il te plaît, Alice ?
Donc je vous recommande de regarder Babel, un film de Alejandro Iñárritu.
Est-ce que tu vas réussir à faire court sur le résumé ? Vu que c'est un film choral, bon courage.
Je vais essayer. Challenge accepté. Un film qui est aussi sorti en 2006. Nous sommes en plein désert marocain. Un coup de feu retentit et ce coup de feu-là va déclencher en fait toute une série d'événements qui va impliquer un couple de touristes américains, deux jeunes marocains une nourrice mexicaine qui voyage illégalement avec deux enfants américains et une adolescente sourde japonaise, un peu rebelle, dont le père est en fait recherché par la police. Et en fait, séparés par leur culture et leur mode de vie, ces quatre groupes de personnes-là vont se rejoindre sur l'isolement et sur la douleur, en fait. Cette histoire-là, peu de gens le savent, a en fait été inspirée de quelque chose qui existe, d'un épisode biblique qui s'appelle l'histoire de la tour de Babel. Donc, dans la Genèse, on va dire, les hommes parlent tous la même langue. Après un certain déluge, ces hommes-là entreprennent le fait de construire une tour si haute que son sommet finirait par toucher le ciel. Et pour empêcher ce projet si ambitieux, Dieu décide d'introduire la confusion et brouille les langues de chacun. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où les hommes ne se comprennent plus parce qu'ils ne parlent plus la même langue. Et donc la construction cesse. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans Babel. Et c'est pour ça aussi que le fameux site pour apprendre les langues s'appelle Babel aussi.
Très bien. Et non pas parce que voilà. Tu es bavarde qu'on dit Babel dans le Nord, mais ça c'est autre chose. Donc... La
si
pauvre,
je savais pas.
Je l'ai embêté ce soir. Le film s'appelle Babel, c'est réalisé par un grand réalisateur, Alejandro González Iñárritu, auteur entre autres de The Revenant qui a valu l'Oscar à DiCaprio. Le casting est hyper prestigieux, hein, Brad Pitt, Kate Blanchett entre autres.
Gaël Garcia
aussi. Bernal, ouais. Et le film est disponible sur Amazon Prime Video. Et si vous n'aimez pas Amazon, comme beaucoup de gens depuis l'été dernier, vous pouvez vous retrancher sur la VOD d'Orange ou le site de VOD français Filmo TV ou Rakuten. Vous avez l'embarras du choix. Je te remercie beaucoup pour les mots si précis que tu as utilisés pour raconter ton histoire. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup, Alice.
Ça me fait très plaisir, en tout cas. Merci.
Avant de conclure l'émission, il est important pour moi de vous dire qu'il existe différents moyens de lutter contre le harcèlement scolaire. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur nonauharcèlement.education.gouv.fr. Et vous pouvez ainsi contacter différents numéros que je vais vous donner ici. Le 30 20, c'est un numéro d'écoute qui assure la prise en charge des situations de harcèlement scolaire. C'est un numéro destiné aux familles, aux élèves potentiellement victimes, ainsi qu'aux professionnels. Je répète le numéro, il s'agit du 30 20. Deuxième numéro que je souhaite vous communiquer, il concerne tout ce qui est relatif au cyberharcèlement, un autre fléau. Pour signaler un cas de cyberharcèlement, ou si vous avez des questions, vous pouvez appeler Net Écoute, donc Net N-E-T Écoute, au 0800 200 000, je répète le numéro, 0800 200 000, 0800 200 000 donc. Le podcast n'est pas encore fini, je vous vois en train de vouloir appuyer sur le bouton stop, non, pas tout de suite. Avant de se quitter, je poursuis ma tournée de remerciements en lisant l'un de vos messages laissés cette fois sur Apple Podcast, un message de Misty Biche. Un jour, il faudra vraiment qu'on parle du choix de vos pseudos, je suppose que c'est une fille, et elle nous dit que le film qui a changé ma vie est un podcast qui se démarque par son originalité, tous les types de films sont abordés, permettant de varier les sujets et les points de vue, un vrai bonheur pour elle, sans compter les questions pertinentes et la rigueur de l'animateur, je crois que c'est moi. Je conseille sans hésiter. C'est trop sympa, merci, ça me fait extrêmement plaisir si l'émission vous permet de passer un bon moment et vous motive à vous plonger dans les films évoqués ici. Faites comme Misty Biche et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict, et c'est peut-être votre message que je lirai prochainement. Vous pouvez retrouver l'épisode que vous venez de suivre ainsi que les 16 précédents sur toutes vos plateformes streaming préférées. Les coulisses de l'émission sont à découvrir sur nos comptes Twitter et Instagram, le film qui a changé ma vie. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao.